vivaient comme un tas de fourmis. De longs convois d'automobiles ronflaient sous les peupliers, au bord d'un canal mort. Une petite locomotive secouait sa queue de wagons entre des meules de paille. On la voyait, tout énervée, faire tourner ses petits pieds, sauter, siffler, cracher dans les herbes. Une autre toute patiente l'attendait, garée avec un train de bois. De temps en temps, celle-là sifflait paisiblement. Un convoi de fourgons bâchés allait au pas sur une route des coteaux en face. Une troupe d'hommes marchait en rang sur une route d'en bas. Ils entraient par une rue. La musique des clairons jouait dans le village. Une scierie chantait une chanson ailée à deux tons graves au travail, puis claire à l'âme libre. Une odeur aigre d'arbres morts et de sciure, et puis un louche goût sucré qui mettait de la pourriture sur la langue. Une auto légère monta vers le bois. C'était une ambulance à la croix rouge pleine à plein ressort. Elle passa, montrant les souliers des blessés allongés. Un autobus peinait dans la côte. Olivier tourna la tête pour le regarder passer. Un grand quartier de bœufs dépouillés et sanglants était pendu dans le jaillissement de la boue sur la plateforme d'arrière. « Tu vois mes arbres, » dit Regottaz, « tu vois, gars. » Ils étaient là, allongés contre la scierie, avec encore leurs écorces et leurs branchies avec des feuilles. Et puis ça, regarde, c'était dans la boue, un morceau de viande gros comme le poing, avec le sang noir et rouge et de la petite glaire blanche dans les fibres. Un morceau de gaz était encore collé sur le côté du vif. Olivier regarda la forêt. On entendait, là-bas dedans, bourdonner les moteurs de l'ambulance et de l'autobus. Il pensait à ce grand quartier de bœuf. Peut-être bien de la viande d'homme aussi, dit Regottaz. Peut-être bien. Qu'est-ce que ça aurait de tant extraordinaire que ça soit tombé du brancard, d'un en lambeaux et qui perde sa viande, dans les roulis, tu sais. Et Regottaz roulait son grand corps de droite et de gauche pour imiter le balancement de l'ambulance. Et il n'y aura point de pitié, on tire sur Pont-Rouge, dit Joseph. Le conducteur de la voiture bloqua les deux mules d'un coup de renne. Il écouta. Ça semble, il dit. C'était à peine comme si on cassait de grosses planches, là-bas, derrière les coteaux. C'est pas le plus rigolo de l'histoire. On fit repartir les bêtes. On avait quitté les dernières maisons de Soissons et la route pavée. Dessous les roues, c'était maintenant la route molle avec des rapiessages de boue et de pierre dans les trous. De longs ruisseaux d'eau blanche comme du plâtre coulaient dans les ornières. Ça a l'air de frapper assez, tu sais. Il y a qu'à s'arrêter à la sucrerie, dit Joseph. De chaque côté de la route, les champs étaient couverts d'une eau immobile qui reflétait le ciel bleuté. Au long de l'horizon, de petits nuages blonds pesaient lentement sur une plaque de soleil toute étincelante. « Tu vois, dit l'homme, j'y ai dit comme je te le dis. J'y ai dit, mon lieutenant, ça qu'on devrait faire c'est une piste de la sucrerie à ses recours. Ça passerait aux creutes, c'est tout le long défilé dans des arbres et ça évite le carrefour. Ah, si tu crois que ça y fait, j'ai entendu qu'il demandait à l'adjudant, qui c'est celui-là ? J'avais envie d'y dire, c'est Mathieu Baumier celui-là, et y connaît son affaire. Des couillons, dit Joseph. Oui, j'avais envie d'y dire, c'est Mathieu Baumier et c'est pas vous, tout lieutenant, qui allez lui apprendre son métier. 15 ans de charroi dans tous les crassiers de Saint-Étienne et avec des bagnoles autres que ça. Et si dit qu'on peut passer là, c'est qu'on peut. C'est pas un enfant, l'a été papa plus de fois que tu t'es mouché, non, mais, t'as des petits, dit Joseph. Deux. C'est pour ça que je suis là. Et toi, moi non, j'étais marié d'un an. T'aurais eu le temps? Oui, deux, mon vieux, une petite que c'est tout son père, ça laisse rien tomber, ça te répond, ça répondrait au pape. Je t'y fourre de ses claques, et un gros lardon qu'il a toute la gourmandise de sa mère, y têterait le paradis si tu le laissais faire. Tu sais que ça a l'air de tomber là-bas. Il venait de dépasser le premier pli de terre. On voyait tout le pays sous le couchant. Il ondulait là-devant, en longues vagues portant des arbres. Le gros ruisseau qui avait inondé tous les prés tordait sa graisse au milieu d'un large marais immobile, tout pommelé du reflet des nuages et de pompons d'herbe. C'était désert jusqu'à la perte de la vue. D'un bosquet, sortait le fût décapité d'un clocher. À la lisière pourrissait une grande ferme toute rongée, ses ossements éparpillés dans l'eau des prés. Des corbeaux bectaient les orbites crevées de ses fenêtres. Au-delà du ruisseau, le pays déchiré jusqu'à la craie s'en allait plat, sans arbres et sans hommes jusqu'à des crêtes lointaines qui fumaient d'une fumée convulsive, pleine de scintillements et d'éclairs. « Sapignel, » dit Joseph en regardant cet horizon d'ombre et de feu. « C'est là que tu vas, » demanda l'homme. « Non, je vais reconnaître à gauche vers Mont-Germont, on monte demain soir. Ça doit pas être meilleur, et si c'est meilleur, avec les salauds qu'on a chez nous, c'est vous qui cantonnez près du canal là-bas, oui la 7, nous on est juste à côté de l'Amélie. Je sais, je t'ai vu sortir les mules, j'ai dit il te portera toujours un peu. Je suis pas bon pour les pieds moi. » À ce moment, un coup tomba sur Pont-Rouge. Une fumée noire dépassa le coteau et monta, ronde et feuillue comme un arbre.